Il n'y a absolument aucune utilité à gravir le mont Everest. Il n'y a aussi absolument aucune utilité à traverser un océan seul à la rame. Et pourtant, très récemment, il y a une Québécoise, Mylène Paquette, qui l'a fait, qui a traversé l'Atlantique Nord à la rame, devenant la première Nord-Américaine à le faire. C'est sûr que quand on y pense bêtement, mais on peut traverser rapidement par avion, et si on veut le faire par bateau, mais il y a toujours toutes sortes de bateaux de croisière ou autres qui peuvent nous permettre d'avoir une expérience un peu plus rapide et un peu plus agréable. On peut se demander pourquoi les gens font ça. Parce qu'en réalité, si on pense au mont Everest, il y a même, oui, il y a une utilité à vouloir traverser l'autre côté de l'océan, mais à monter le mont Everest, je veux dire, il n'y a rien là-haut, il n'y a rien à y faire. La vue est la plupart du temps voilée en plus, due à l'humidité, due aux nuages, tout ça. On peut même pas y dormir. Quoique, il y a quelqu'un, il y a quelques années, qui a décidé d'y passer la nuit sur le toit du monde. Et selon les statistiques, il aurait eu comme plus de chances de mourir à le faire qu'à redescendre tout simplement. En fait, on fait ça parce que on veut se dépasser, on veut aller plus loin, on veut tout simplement tester nos limites. Certaines personnes parlent de courage. Je pense que ça prend, oui, du courage et de l'entraînement initialement quand on démarre l'aventure. Mais un coup que l'aventure est démarrée, on a passé le point de non-retour. En quelque sorte, on n'a plus le choix et c'est l'instinct de survie qui embarque et qui nous permet de continuer ce genre d'aventure-là. C'est sûr que personnellement, j'ai jamais entrepris une expédition aussi incroyable. Mais c'est pas pour ça que je n'ai absolument rien fait. En fait, personnellement, j'ai ces habitudes-là d'ancrer chez moi, d'aller au-delà de mes limites, de me pousser un peu, de me mettre en danger, d'essayer des choses que j'ai jamais fait auparavant et d'essayer toujours d'aller plus loin, parce que c'est sûr que c'est toujours en dépassant nos limites, en essayant de s'améliorer, ben qu'on devient un meilleur être humain. Mon nom est Sylvain Grandmaison et vous écoutez Le Québec en balado-diffusion. Through you, talking like we don't exist. Oh oui, je ne sais pas si vous écoutez ça, vous autres, depuis que c'est sorti, depuis quand même près d'un mois, je dirais, Arcade Fire, et c'est la toune We Exist. L'album Reflector est quand même assez bon, je dois dire, malgré que, bon, j'ai quand même apprécié le précédent, là, mais pas autant que celui-là. Je sais pas, je suis plus dans le mood de celui-là. Donc oui, c'est très le fun. Il y a toutes sortes d'influences, évidemment, beaucoup d'influences des années 80, un peu années 70, 60. Il y en a toujours dans leurs albums, mais sur celui-là, je trouve que le genre d'influence, il me parle un petit peu plus que dans le précédent, et c'est probablement pour ça que j'apprécie encore plus cet album. Voilà. Je vous ai parlé un peu tout à l'heure de Mylène Paquette, cette femme qui a fait la traversée à la rame en solitaire de l'Atlantique Nord et première nord-américaine à faire cette chose-là. Pourquoi je vous en parle? Bien parce qu'elle a fait un podcast. Elle avait configuré ça avec son équipe. Donc, son podcast, c'était tout simplement un phone cast qu'on appelle. Donc, elle avait configuré pour que quand elle appelle avec son téléphone satellite à un certain numéro, bien, ça enregistre ce qu'elle dit un peu. Comme si c'était un répondeur, mais bon, à durée variable, plutôt de pouvoir laisser un message de 2 minutes, là, ben, elle pouvait nous parler pendant une dizaine de minutes. Donc, j'ai découvert ça à peu près à mi-parcours, qu'elle avait un podcast. Donc, je l'ai suivi jusqu'à la fin. C'était bien sympathique. Malgré que ben on sentait pas nécessairement la vie à bord, elle parlait, nous décrivait qu'est-ce qu'elle avait fait durant la journée, mais donc ça nous permettait de suivre et bon, de savoir de l'intérieur tout ça, mais elle parlait plus ou moins de ses émotions, ça restait quand même assez en surface. C'était un petit peu, ça aurait pu être plus personnel, si vous voulez, mon avis, mais quand même, quand on y pense, avec un radio satellite, quelqu'un d'aussi isolé, pouvoir nous parler et de nous partager son aventure en temps réel, c'était bien sympathique. Voilà. Et on commence le segment que l'on attend à chaque émission, même si ça fait longtemps que j'ai pas fait d'émission, à chaque fois j'en fais une, je le sais que ça vous plaît. C'est le carburant de la semaine. Oh oui, et vous devriez me voir assis avec ma belle bouteille de 650 millilitres à la main d'une bière pas si forte que ça finalement. C'est une bière bien spéciale parce que depuis que je vous ai parlé la dernière fois, j'ai commencé une activité personnelle assez sympathique. C'est-à-dire de fabriquer ma propre bière. Et je suis déjà rendu à ma quatrième recette en ce moment qui est en train de fermenter. Donc, celle-ci, c'est la première. Je dois dire que j'ai fait une première, puis après ça, j'en ai fait comme trois coup sur coup, là. Donc, celle-là, c'est la première. Et c'est une pale ale transformée en semi-IPA. Et je vais la déboucher et je vais vous en parler. Oh oui. Et puis, ben, je verse ça dans le verre. Ah. C'est jaune doré avec quelques reflets roux. En fait, ce que j'ai fait, faut que je vous explique. La façon normale de faire de la bière, c'est de concasser le grain, faire bouillir, le faire chauffer dans l'eau pour que l'amidon se transforme en sucre. Après ça, on prend ce bouillon-là qu'on a fait circuler et on le fait réduire pour concentrer le sucre et les saveurs. Et à partir de ça, ben, ce concentré qu'on obtient, ben, on le houblonne évidemment. On fait bouillir du houblon avec pour lui donner de la saveur un petit peu plus et on le fait fermenter. Grosso modo, avec de la levure, ça vous explique un peu grosso modo la procédure pour faire de la bière. Donc, moi, je ne voulais pas m'embarquer tout de suite à brasser tout grain parce que c'est quand même assez complexe et assez long. Je me suis rabattu sur la meilleure chose à faire si on veut avoir de l'excellente bière sans brasser tout grain, c'est-à-dire brasser avec des mous qui sont déjà faits donc, qui sont simplement pasteurisés. Et qui sont mis dans un immense sac de plastique dans une boîte. Donc, c'est exactement comme si on faisait bouillir à la maison, qu'on faisait on mettait ses houblons, tout ça, et on arrête le processus juste avant la fermentation. On emballe le tout. C'est la meilleure chose à faire, je pense, au niveau saveur, si on veut avoir une bière de qualité à la maison de base. Le seul problème, c'est que on n'a pas le contrôle sur les grains, on n'a pas le contrôle sur les houblons à la base. Donc, c'est un peu ça le principe. Sauf que ce qu'on peut faire, par contre, c'est rajouter des ingrédients pour bonifier. On part d'une base qui existe. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis parti d'une base de pale ale traditionnelle. Ce que j'ai fait, j'ai houblonné. Les Anglais disent « dry hopping ». J'ai houblonné, pas à sec, mais à froid, qu'on dit. Donc, j'ai mis des houblons dans la cuve après que la première fermentation soit passée. Donc, ça donne vraiment une saveur de houblon frais. Et je vais la goûter dans vos oreilles. C'est le fun parce que c'est une bière vivante, ça évolue toujours. Ça faisait une semaine, j'avais pas goûté, puis je dois dire, c'est affiné encore un peu plus. Pourquoi c'est une bière vivante? Bien, étant donné que c'est fait avec de la levure, évidemment, c'est non filtré et c'est refermenté en bouteille pour que le gaz carbonique se fasse. Donc, il y a toujours un peu de levure dedans et le goût évolue énormément les 2-3 premières semaines. Et c'est ce qui arrive. La première chose, le gaz se fait. Le restant de la levure tombe au fond de la bouteille, ce qui fait qu'au début, elle était un peu troublée. Puis là, plus ça va, plus elle est claire, évidemment. Et puis, c'est une assez bonne bière qui fait environ, si ma mémoire est bonne, c'est 5,75, 6% d'alcool. Donc, un petit peu plus forte qu'une bière normale. Et puis, j'ai ajouté des houblons anglais. J'aurais peut-être dû pour avoir, parce que je voulais avoir quelque chose qui se rapproche un peu plus d'une IPA. Là, j'ai un peu un entre-deux. Ça n'a pas autant de mordant qu'une vraie IPA. J'aurais peut-être dû prendre des houblons américains qui ont un petit peu plus de mordant pour avoir un peu la saveur que je recherchais, mais quand même, c'est très bon, c'est très goûteux. En même temps, c'est pas aussi lourd qu'une bière belge, c'est pas aussi costaud qu'une bière noire ou qu'un porter, par exemple. Ça se boit quand même super bien. Ça a juste... un peu plus de goût qu'une bière d'épicerie normale. C'est sûr que je vais vous reparler de bière dans les prochains épisodes parce que j'ai quelques autres brassées qui sont en train de terminer, de s'affiner, de faire du gaz dans les bouteilles, tout ça. Donc, je vais vous en reparler dans les prochains épisodes. Restez à l'écoute, on risque d'avoir bien du plaisir. Je voulais vous parler d'un événement qui est arrivé il y a environ un petit peu plus d'un mois. Ça s'appelle le Podcast All Star. C'est organisé par les Mystérieux Étonnants. Les Mystérieux Étonnants qui font une sympathique émission de radio et qui est diffusée évidemment en podcasting, bien sûr. C'est diffusé à Choc FM. Je vais vous mettre le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast. Je vous le conseille fortement. C'est un podcast où est-ce qu'il y a une bonne dynamique entre l'animateur et les co-animateurs, bien sûr. Et puis, c'était la deuxième fois qu'ils faisaient un podcast All Stars, c'est-à-dire d'inviter les gens qui font du podcasting, les gens qui sont un petit peu plus connus dans le milieu. Faut dire que moi, j'étais probablement le seul des vieux de la vieille à être invité là. Faut dire que ceux au Québec qui ont commencé à faire du podcasting en même temps que moi, la plupart ont diminué ou ont tout simplement arrêté. Si je pense justement à mon ami Laurent Lassalle, si je pense, même aux podcasters plus anglophones, ou bilingue comme Bob Goyette ou comme Julien Smith et compagnie. C'est des gens qui ont soit arrêté leur podcast initial, qui ont changé de podcast ou tout simplement arrêté d'en faire. Donc, c'est un événement très sympathique. Il y avait plein de gens là. Il y avait, bien évidemment, les Mystérieux Étonnants étaient là parce que c'est eux qui organisaient tout ça. Et bien évidemment, leur animateur principal, Benoît Mercier, c'est lui qui organisait et qui un peu interviewait tout le monde lors de l'événement parce que l'événement aussi, c'était le prétexte pour faire une émission et pour, après ça, la diffuser. Donc, c'était bien sympathique. Il y avait ensuite Alexis Cornelier de Mac Québec. Il y avait Dominique Sicotte de En Affaires avec Passion. Il y avait les gens de Objectif Numérique aussi. Les gars de Trois-Bières qui sont super, super sympathiques. Le monde de l'épée légendaire. Ensuite, il y avait des gens aussi de Radio Talbot. Il y avait aussi François-Dominique Laramie qui était là, qui était sur place. Voilà, vous pouvez aller faire le tour des émissions qui étaient là et aller écouter l'émission aussi. C'était vraiment sympathique. C'était divisé en segments. J'ai parlé dans deux segments. On a parlé un peu des débuts du podcasting, puis bon, de ceux qui le font depuis un peu plus longtemps. Mais je trouve ça, pas plate, mais la discussion avait un peu dévié à un moment donné sur l'art de faire de l'argent avec le podcasting, tout ça. Ce qui est pour moi pas nécessairement le truc le plus intéressant. Ce qui est plus intéressant, c'est peut-être de parler du contenu, finalement, de ce qui nous anime. Et ce qui nous motive à faire du podcasting après quand même plusieurs années. Moi, ça fait depuis 2006, ça fait 7 ans cette année que je fais ça. On s'en rend pas compte, le temps passe et on a toujours autant de plaisir, même si on a parfois un peu moins de temps, je l'avoue. Donc, je vous mets le lien dans les notes de l'émission et puis vous allez... Allez, écoutez ça, ça vaut la peine. Je suis allé à New York il n'y a pas longtemps. Certaines personnes le savent peut-être, j'enseigne à temps partiel pour l'instant parce qu'il y a une possibilité éventuellement que je devienne enseignant à temps plein. Je réfléchis bien sûr là-dessus. Et avec mes chers étudiants, on les a accompagnés dans un voyage à New York que le département organise à tous les deux ans. Donc, ça prend toujours des accompagnateurs, mais cette année, il manquait seulement un des profs de tout le département. Donc, ce n'est pas un très gros département, on s'entend. On est une dizaine d'enseignants au total. C'était vraiment sympathique, surtout pour moi, de retourner à New York une deuxième fois dans la même année. Donc, des choses que j'ai eu moins le temps de voir, moins le temps de faire, j'ai pu les faire, j'ai pu les voir. Aussi, quand je suis allé l'été passé, c'était avec ma petite famille. Donc, on passe tout le temps ensemble, petite famille, tout ça. Là, d'y aller avec des collègues, c'est arrivé à plusieurs moments où est-ce que je suis parti seul faire mes choses. C'est le fun, j'adore ça, être dans une ville comme New York, tout seul, avoir plein de choses à faire, avoir un grand sentiment de liberté aussi. C'est assez intéressant. L'autre chose, c'est que je me suis acheté un nouvel appareil photo, qui est un Fuji XE1. C'était vraiment un trip pour moi de documenter, de m'amuser, de créer New York, la ville, d'exploiter ce médium-là photographique. Ça a toujours été un dada. Je fais de la photo noir et blanc depuis que j'ai l'âge. Je pense que la première fois, j'avais 14-15 ans au secondaire avec de la pellicule, évidemment. Et puis, ben, j'ai fait, je crois, si ma mémoire est bonne, on avait 4 cours de photo au cégep. Ensuite, j'ai fait quelques cours aussi au niveau universitaire. J'ai été aussi abonné dans un centre de photo où est-ce que ben, on payait tant par trimestre, puis ben, on avait accès au lab pour aller faire du tirage, faire du développement de films, etc., etc. Donc, j'ai toujours été mordu de photo, puis... Je ne m'étais jamais encore vraiment acheté un appareil digne de ce nom pour faire du numérique. Malgré j'ai toujours eu accès à de très bons appareils, donc c'est peut-être aussi pour ça. Puis là, j'étais vraiment rendu à un moment où je voulais acheter l'appareil de mon goût, la lentille de mon goût. J'ai essayé plein de choses, je me suis documenté sur plein de choses, puis c'est vraiment le Fuji X-A1 qui a gagné. Pourquoi? Mais parce que, entre autres, c'est une question de capteur. Le capteur a presque le format d'un full frame, donc qui est quand même assez gros. C'est en bas des full frame, des capteurs plein format. C'est parmi les plus gros capteurs. Donc, on a une résolution, mais aussi une qualité. Quand les pixels sont plus gros pour... En fait, les sensors sont plus gros pour capter. On a plus de détails. On a un meilleur contraste des lumières, tout ça. Et aussi, c'est pas simplement le format, mais aussi c'est la proportion. Ce capteur-là a une vraie proportion de film 35 mm, c'est-à-dire, c'était 24-36 ou 2... unités de haut par 3 de large si on fait des proportions, ou il y en a qui disent c'est 1.5 comme vous voulez, cet appareil-là, le capteur a cette proportion-là, donc c'est une très belle proportion pour faire de l'affiche, c'est génial aussi, tout ça. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi, c'est les molettes qui sont des molettes vraiment physiques. On tourne le bouton pour régler l'obturation comme sur un vieil appareil argentique. Même chose pour ouvrir le diaphragme, tout ça. Donc, on n'est pas perdu, mais non seulement ça, c'est tellement plus simple aussi. On peut aussi configurer plein de choses. Il y a un bouton qu'on peut configurer la fonction qu'on veut, donc elle est accessible ultra rapidement. Il y a aussi un autre bouton où est-ce qu'on peut préprogrammer plein de fonctions, on peut peser sur le bouton puis aller chercher ses réglages préférés assez facilement aussi. Donc, c'est très configurable. Et il y a aussi l'émulation de film. Donc, cet appareil-là émule du film noir et blanc, mais tous les films que faisait Fuji, autant en noir et blanc, en couleur, en transparent aussi. C'est vraiment une option intéressante. Et moi, le bouton fonction qui est super accessible, c'est ce que j'ai mis dessus. Ça me permet de switcher au noir et blanc couleur. J'enregistre toujours en RAW et aussi en JPEG. Donc, j'ai les deux. Ça permet beaucoup plus de flexibilité par la suite. Ça enregistre aussi en vidéo HD. Et évidemment, si on a une bonne ouverture de diaphragme, il y a une belle profondeur dans nos vidéos. Tout ça, j'ai pas encore testé à fond la vidéo. Je l'ai essayé un peu, j'ai trouvé ça trippant, mais pas à fond. Je peux vous dire, avec un appareil de cette qualité-là, j'ai fait parmi les plus belles photos de ma vie. Et je peux vous dire, j'en ai déjà fait à la tonne de la photo. Je peux vous dire que je suis quand même assez pas mal. J'ai l'œil pour prendre de belles photos, mais avec ça, c'est incroyable. Et des moments pas possibles que j'ai pris avec cet appareil-là à New York, c'est vraiment un charme. Donc, je suis tombé en amour avec cet appareil photo-là. J'ai pris près de 600 photos quand j'étais à New York. Et puis, depuis ce temps-là, ben, j'ai pas arrêté beaucoup. Donc, c'est vraiment un plaisir. dans toute la gamme, moi, j'ai choisi celui-là. Il n'y avait pas un vrai viseur optique. C'est un viseur où est-ce que... c'est un peu comme un viseur de caméra vidéo. C'est qu'on voit, on voit un petit écran à l'intérieur du viseur, mais on voit quand même ce que capte le capteur. Faut s'habituer un peu, mais un coup qu'on est habitué, là, c'est vraiment trippant. On a vraiment le feeling d'un vrai appareil argentique et tout le plaisir qui va avec aussi. Moi, pour avoir essayé des réflexes de toutes les marques, Sony, Canon, Nikon, nommez-les, j'avais plus d'affinité avec le Canon, mais là, avec le Fuji, c'est tellement plus simple. Malgré que Nikon fait de l'image de top qualité, j'ai un Nikon au bureau et un D5200 qui est quand même correct, qui n'est pas si mal, mais quand même. Même s'il y a donne de bons résultats, je m'en sers presque jamais, justement à cause de l'interface. Donc, je ne saurais trop vous le recommander, l'appareil Fuji X1. Il y a aussi le X-Pro 1 qui est un petit peu plus performant, un petit peu plus gros qu'un viseur optique à ce moment-là. Sinon, il y en a des plus bas dans la gamme, mais ils ont le même capteur et les mêmes optiques. Je me suis pris une lentille fixe, qui est l'équivalent d'un 50 mm là, en photo traditionnelle, avec une ouverture de 1.4. Fait que ça peut vous donner une idée la qualité de la profondeur qu'il y a dans ces images-là. C'est très, très beau quand on sait l'utiliser. Donc, je vous conseille cet appareil-là. Si vous avez la chance de l'essayer, c'est vraiment un plaisir. Je vous fais jouer encore un petit peu de musique. Question de prendre une pause, question de prendre quelques bonnes gorgées de bière, évidemment. Et puis, je vous reparle tout de suite après. Hey! Je sais pas si je vous ai dit tantôt, ben je vous ai dit que je faisais de la bière, que j'en avais quelques-unes en chemin. Il y en a une qui m'a donné du fil à retordre parce que je suis parti d'un kit de base pour fabriquer une bock, donc une bière un petit peu plus allemande, brune, un petit peu plus riche en saveur, en alcool, tout ça. Et j'ai décidé de pimper ce kit-là, ne sachant pas trop ce que je faisais. J'ai commis à peu près toutes les erreurs possibles. C'est-à-dire, quand on fait de la bière, ben, c'est mieux de démarrer notre levure, de l'activer une journée avant pour que le lendemain elle soit performante, surtout quand on fait une bière qui est assez riche en alcool, ce qui était le cas de celle-ci. Ce que j'ai fait, j'ai pris un kit de base auquel j'ai rajouté de l'extrait de malt liquide. Donc, ce qui résulte quand on fait, on transforme l'amidon en alcool, en sucre, pardon, de notre malt. En fait, il y a des compagnies qui font ça. Ils le transforment pour nous et ils le font réduire pour en faire un genre de sirop qu'on peut réhydrater par la suite. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté pour concentrer les saveurs, pour concentrer aussi les sucres. Pour donner une bière brune un peu inspirée de type belge. Donc, ce que j'ai fait avec ça, pour balancer le côté sucré, j'ai houblonné à chaud. Donc, j'ai pris une partie du moût, j'ai rajouté mes ingrédients, j'ai rajouté ça. Et puis, j'ai eu beaucoup de difficultés à la faire fermenter. Il y avait beaucoup de sucre. Et ce que je me suis rendu compte aussi en me documentant, beaucoup de sucres non fermentissibles, c'est-à-dire c'est des types de sucres trop complexes qui ne peuvent pas être fermentés par les levures. Donc, il y a du sucre résiduel, il y en a quand même beaucoup, ce qui n'est pas nécessairement inhabituel pour une bière comme ça. Puis même, à la limite, c'est bien qu'il y en ait un petit peu plus. Parce que ça vient balancer le taux d'alcool. Donc, ça fait à peu près 9,5% d'alcool, ce qui est assez élevé. Donc, il y a quand même beaucoup de sucre dedans et elle est en train de gazéifier en bouteille. Évidemment, quand il y a un taux d'alcool, il y a un taux de sucre résiduel si élevé, la levure est fatiguée. Donc, c'est long avant d'être refermenté en bouteille. Une petite bière blonde, au bout d'une semaine, ça commence quand même à être assez bien gazé. Puis celle-là, à peine. Donc, il faudra être patient, tout simplement. On parle d'un mois de conditionnement en bouteille, au moins, minimum, idéalement 2 à 3 mois. Pour que ça soit au point, tandis qu'une bière normale blonde, 2 semaines, c'est fait, là. Donc voilà, et j'en ai fait une autre. J'ai fait une Pilsner standard, vraiment très standard. J'ai rien rajouté, j'ai fait la recette. Ça goûte la Pilsner, c'est très bon, c'est très simple, mais c'est beaucoup plus goûteux qu'une Labatt bleue, finalement. Et la dernière, c'est une bière de type belge ambrée, une deuxième belge, moins forte en alcool. Et j'ai appris ma première expérience de bière très forte. Donc, ce que j'ai fait une amorce, j'ai démarré, activé ma levure une journée avant. Et cette fois-ci, j'ai pris une levure liquide, j'ai pris une levure, une vraie bonne levure belge qui allait être optimisée pour la quantité de sucre puis la quantité d'alcool que je voulais au final. Donc, il y a plein de choses que j'ai mieux faites cette fois-ci. Et pour faire une bière belge comme ça, j'ai ajouté ce qu'on appelle du sucre candy. C'est-à-dire que c'est du sucre blanc qui a été transformé en le chauffant et en ajoutant un corps acide, c'est-à-dire de l'acide citrique, du jus de citron. On peut le faire à la maison. Moi, je l'ai acheté. Donc, il faut faire chauffer un certain degré. Il faut ajouter le corps acide, le liquide acide après un certain temps de chauffage. Un coup c'est fait, le sucre s'invertit et devient beaucoup plus fermentable et produit des plus belles saveurs. Si on fermente du sucre blanc, ça va fermenter, c'est sûr, presque en entier, mais sauf que ça va donner une saveur qui va sentir la pomme verte. Ça va ressembler un peu plus à du cidre au niveau de la saveur de l'alcool, ce qui n'est pas nécessairement ce que l'on veut. Quand c'est du sucre candi, ça produit des belles saveurs, des saveurs complexes qu'il y a dans les bières belges, finalement. Donc, les Belges sont assez... c'est pas pour rien. C'est pas pour rien que les Belges sont très reconnus pour la bière. Ils ont fait tout ce qui pouvait se faire et toutes les expériences pour finalement donner des choses de très grande qualité. Donc, je vous en parlerai dans des prochaines émissions de ces magnifiques bières-là. Je vais vous parler d'un sujet qui est peut-être un petit peu costaud, mais qui demande à être discuté dans une émission comme celle-ci, parce que je parle du podcasting et je parle de ce qu'on appelle des patent trolls. Les patent trolls, c'est des gens qui ont des brevets ou qui investissent dans des brevets ou qui en rachètent. Tout simplement dans le but de faire de l'argent avec ces brevets-là, non pas dans le but de les prêter sous licence ou de faire en sorte qu'on développe des produits avec, mais tout simplement justement pour poursuivre d'autres compagnies. C'est un business aux États-Unis très, très grand. OK, donc le brevet en question, c'est un brevet qui a été déposé en 1996, ça fait longtemps, par une compagnie qui, soi-disant, développait des lecteurs audio et a développé un brevet pour la distribution de contenu par l'Internet sous forme, soi-disant, d'épisodes. C'est pas nécessairement clair parce que, de ce que j'ai lu, c'est un brevet qui a été déposé, oui, en 96 pour la distribution de contenu sur Internet, mais c'est un brevet qui a été bonifié, donc on a déposé un second document beaucoup plus tard, après que le podcasting soit établi. Et là, cette compagnie-là essaye simplement de poursuivre pour obtenir de l'argent. C'est sûr que parfois la justice, les juges ne connaissent pas bien la technologie, peuvent être induits en erreur, mais aussi peuvent peut-être moins bien comprendre les enjeux dans ce cas-là. Parce que, en réalité, la compagnie n'a jamais développé aucune technologie avec ça. Ils ont déposé un brevet où est-ce qu'ils expliquaient un principe. OK? Mais ils n'ont pas développé d'algorithme, ils n'ont pas développé de réseau, ils n'ont absolument rien développé avec ça. Donc, ils se servent de ça tout simplement comme manière de faire des sous. Ce qui fonctionne tout à fait, c'est pas parce que tu dis « Ah, j'ai eu l'idée de faire de quoi à un moment donné » et que d'autres l'ont fait par après réellement que t'as les droits là-dessus. Ils ne t'ont pas copié non plus parce qu'il n'y avait aucune idée que tu avais fait ça auparavant. C'est ça aussi l'affaire. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, pas le plus drôle, mais en fait, c'est vraiment pas drôle parce qu'en ce moment, la compagnie a déjà déposé... des poursuites contre Apple et a gagné certaines poursuites. Je ne suis pas sûr que Apple a payé. Et là, ils se sont mis à poursuivre des gens. Donc, poursuivre des gens qui fabriquent des podcasts. Là, on parle de Adam Carolla, qui est un humoriste américain qui a un show ultra, ultra populaire, un des plus populaires sur Internet. Peut-être que vous connaissez aussi How Stuff Works, qui est produit par le Discovery Channel aux États-Unis. Plein d'autres. Donc, ils sont rendus à poursuivre les gens, pas qui ont inventé des technologies, pas des gens qui hébergent ces technologies-là, pas des gens qui fabriquent des lecteurs de médias, mais tout simplement des gens qui font des émissions, qui déposent des MP3 sur leur site web et qui n'ont aucune responsabilité, je veux dire, dans la création des technologies qui permettent de faire du podcasting. Donc, c'est là que c'est un peu difficile. Ce qui est arrivé, c'est que plusieurs podcasters, plusieurs personnes aux États-Unis se sont regroupées pour fabriquer une genre de fondation pour essayer de rendre invalide l'usage de ce brevet-là parce que la description est tellement large et n'est raccrochée à aucune technologie, ce qui fait en sorte que tout un chacun pourrait être poursuivi pour ça. Ce qu'ils essayent aussi de démontrer, c'est qu'avant qu'eux développent ça, déposent ce brevet-là, il y a des gens qui ont fait ce genre de choses-là avant eux sur Internet. Il faut dire que si on déposait un brevet en 96, c'est très difficile parce que, bon, le web, comme on le connaît, a commencé un peu plus en 1993, de 93 à 96. C'était pas très long. Oui, il y en a qui ont développé ce genre de principe-là, de technologie-là. Mais ce qui est le plus drôle là-dedans, dans les arguments, entre autres, contre, c'est que Frank Zappa, musicien et homme créatif et brillant comme pas un. Dans sa biographie qui date de la fin des années 80, je pense c'est 88 ou 89, il parle justement qu'il a proposé ça, puis c'est un des plus gros échecs qu'il disait dans sa carrière parallèle à la musique. Un de ses plus gros échecs, c'est d'avoir rencontré toutes les grandes compagnies de disques pour leur proposer de mettre sur pied un réseau où est-ce qu'on transfère automatiquement la musique jusqu'à l'utilisateur à la fin de faire passer ça par un réseau téléphonique de données pour que les gens puissent avoir la musique et l'acheminer à la personne et créer une forme de lecteur pour automatiser la distribution de ce média-là. Et c'est tellement, ça pourrait être tellement drôle que justement, une idée comme ça de Frank Zappa qu'il y a eu dans les années 80, je ne sais pas si c'est probablement documenté ailleurs que dans son autobiographie, mais ça pourrait être très drôle que ce soit ça qui rende complètement non avenu le brevet, le patent troll, justement, de cette compagnie-là. Donc, je vais suivre ça pour vous. Ça peut avoir des influences parce que si on est obligé de payer à un moment donné des sous à cette compagnie-là, ce que j'espère pas, pour pouvoir utiliser, pour pouvoir produire du contenu sous forme de podcasting, ça serait complètement ridicule. Mais ça risque, ça pourrait arriver et ça risque de nous affecter. Ce qui est plate, c'est que cette compagnie-là se fout totalement des créateurs de contenu, se fout totalement de comment ça pourrait affecter le développement du contenu sur Internet et du podcasting, bien sûr. Mais ceci dit, je vais garder un œil là-dessus, puis ben, je vous en parle évidemment dans un prochain épisode. Un dernier petit segment sur mon ami Pierre Journel. Pierre Journel, si vous écoutez l'émission depuis assez longtemps, j'ai déjà parlé de lui à l'émission. Je lui ai même déjà parlé dans mes premiers épisodes il y a très longtemps. Un peu après aussi, quand même, à quelques reprises. Entre autres, je crois, quand il était à la veille de quitter Montréal pour retourner dans sa France natale. Et après ça, ben, quand on s'était tous rencontrés dans le sud de la France, quand j'étais en vacances pour se faire une petite rencontre de podcaster avec les Français et moi, puis c'était bien trippant. Donc, Pierre est un passionné, fait du podcasting depuis plus longtemps que moi, depuis 2005, je crois. Et puis, il a travaillé, bon, entre autres chez L'Oréal, il a travaillé à son retour en France chez Heineken pendant un certain temps. Il a commencé à développer parallèlement la chaîne guitare. Je crois qu'il avait, ben, en fait, il avait commencé à parler de guitare dans son podcast régulier, le PCC, quand il était ici à Montréal. Après ça, il a démarré la chaîne guitare. Je crois qu'il était déjà en France à ce moment-là. Et puis, ben, petit à petit, il s'est mis à avoir beaucoup, beaucoup d'auditeurs, à rencontrer des gens de plus en plus célèbres et puis à développer un peu son réseau avec ça. Il s'est fait une start-up avec ça. Donc, il essaie de développer un modèle d'affaires pour pouvoir en vivre, qui ne rêve pas de pouvoir vivre comme lui de sa passion et en plus de rencontrer les meilleurs guitaristes du monde parce qu'il rencontre souvent de très grosses pointures et aussi des guitaristes de différentes envergures en France, des luthiers, toutes sortes de gens comme ça. Donc, ce qu'il a développé comme modèle d'affaires, c'est un peu de parler un peu de façon plus générale de ce qui se passe sur la chaîne guitare. Donc, au début, il donnait vraiment tout, les entrevues, tout ça qu'il faisait avec tout le monde. Là, maintenant, pour avoir accès à ça, il faut s'acheter une passe backstage, comme il appelle. Et puis... Ce qu'il fait dans son podcast régulier ou dans ses émissions plus régulières, c'est de parler simplement, de faire un survol pour dire qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur. Donc, il n'y a pas juste des entrevues. Oui, il y a des entrevues, mais il y a aussi, il commence à développer ce qu'il appelle les masterclass. Donc, d'avoir un vrai guitariste pro qui nous donne des trucs, tout ça. D'avoir aussi des tabs, donc des feuilles pour pouvoir savoir c'est quoi le doigté de telle chanson. Tout ça est basé évidemment sur la guitare. Donc, il offre beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de ça et je crois que c'est 5 euros par mois seulement. Donc, si ça vous intéresse, si vous êtes un tripeux de guitare, vraiment, je vous le conseille. C'est fou, c'est une mine d'informations à l'intérieur de ça. Faut vraiment, vraiment y aller. Sinon, parallèlement à ça, avec toutes ces expériences qu'il y a eu avec la chaîne guitare, toutes les expériences qu'il y a eu aussi à faire son podcast régulier, Pierre a mis au point un livre qui est sur les médias sociaux à usage des musiciens. Donc, pour l'instant, c'est édité sous forme de livre électronique. Je vais vous mettre le lien, vous aurez le lien vers son site et c'est assez intéressant, c'est un point de vue vraiment intéressant et c'est extrêmement documenté. Ça parle surtout des médias sociaux les plus connus évidemment, les Facebook et Twitter de ce monde, pas vraiment de LinkedIn en fait parce que bon c'est moins un réseau utilisé pour les musiciens. C'est moins un réseau de promotion. Et malgré qu'il y avait beaucoup d'expérience dans le domaine, Pierre s'est fait un devoir de se documenter le plus possible et avoir des exemples concrets à proposer d'usage des médias sociaux pour les musiciens. Ce qui est difficile pour lui, il en parlait dans son podcast le PCC il n'y a pas longtemps, c'est de trouver des exemples chiffrés. C'est toujours le truc le plus difficile parce que c'est simple de dire « Ah, mais j'ai eu beaucoup de succès avec ça, mais c'est quoi ton succès? Combien tu avais, par exemple, d'abonnés avant que tu fasses le truc? Combien tu en avais après? C'est quoi la différence entre les deux? Le pourcentage d'augmentation? Est-ce que ça s'est converti en achat pour toi? Si oui, combien? Etc. » C'est le genre de choses très difficiles, évidemment, à obtenir. Les gens sont frileux de fournir leurs données. Ceci dit, si vous êtes un musicien puis vous ne savez pas comment vous dépatouiller dans les médias sociaux, je vous conseille d'acheter le livre de Pierre. Je ne me rappelle pas, mais je crois que c'est entre 20 et 30 euros, peut-être plus autour de 30 euros en tout cas, entre les deux, quelque chose comme ça. Ça aussi, je vous le conseille. Moi, j'ai eu le plaisir de feuilleter rapidement la version de travail de Pierre. J'aurais aimé ça, il le sait, j'aurais aimé ça, il participait un peu plus et pouvoir lui donner plus de feedback. On s'est parlé à quelques reprises sur le projet puis sur la chaîne guitare aussi. Mais comme tout le monde, je suis ultra occupé, vous pouvez vous imaginer, mais ça me fait bien plaisir de lui donner un petit coup de pouce en parlant parce que Pierre c'est un ami puis en plus de ça il fait un bon boulot, il travaille très fort, il faut avoir quand même des couilles de béton comme on dit pour pour tout simplement lâcher son travail puis essayer de vivre de sa passion, faire une start-up avec ça et poursuivre. Fait que moi, je vous encourage non seulement à acheter son livre, vraiment, mais je vous encourage aussi à vous abonner si vous êtes un tripeux de guitare, vraiment. La chaîne guitare, c'est pour vous à 100%, c'est sûr. Vous allez y trouver tellement, tellement d'informations, tellement d'audios, de vidéos, de toutes sortes de musiciens, de luthiers, de tout ce qui touche à la guitare. Écoutez, vous allez triper. Donc, je vous recommande ça et je vous tiens au courant justement de qu'est-ce qui arrive avec Pierre. Et aussi, il parle de faire une version imprimée de son livre dans les prochains mois. Fait que quand ça sortira, je vous le dirai. Oh oui, on approche de l'heure parce que moi, je sais pas pourquoi, mais c'est comme mon pacing régulier de faire une heure d'émission. J'arrive toujours autour de ça, autour de la marque d'une heure lorsque je fais une vraie émission complète avec des sujets. Et j'aime discuter. Vous devriez voir mes notes d'émission. La phrase la plus longue fait à peu près 6 mots, puis sinon c'est souvent 2 mots, 3 mots, et ça tient sur à peu près même pas une dizaine de lignes. Donc, et c'est avec ça que j'ai réussi à vous pondre un épisode qui fait presque une heure. Ceci dit, avant de vous quitter, plein de choses intéressantes, importantes à vous dire. La première chose, c'est que il y a des gens qui sont allés commenter sur iTunes et je vous remercie. Ça a un effet, ça marche quand vous allez mettre des commentaires, tout ça. Ça a un effet sur le fait d'être présent, d'être vu sur le iTunes Store. Donc, merci à ceux qui l'ont fait. Et aussi, c'est un effet motivateur pour moi. Moi, ça, j'adore ça quand vous faites ça. C'est mon salaire, évidemment, d'avoir des beaux et bons commentaires. Et je vous demanderai, ceux qui ne l'ont pas fait, s'il vous plaît, allez mettre des petites étoiles dans iTunes. Allez ajouter votre commentaire. Écoutez, ça va vous prendre un gros 5 minutes. Et pour toute l'heure de plaisir que j'ai de vous donner dans les oreilles, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas, faites-le. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, si ça vous chante, parce que ce qui est difficile quand on a un podcast depuis un certain temps et qui est établi, c'est après ça de trouver une nouvelle clientèle, d'aller atteindre plus de gens avec notre émission. Et puis, c'est de plus en plus difficile de croître. Évidemment, moi, je ne fais pas d'argent avec ça. Mon seul but, c'est simplement de m'amuser, partager. Mais quand je sais qu'il y a beaucoup plus de gens à l'autre bout, ça me motive. C'est sûr que ça me motive. Puis, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour ça, pour m'aider à être motivé? C'est de partager mon émission avec vos amis. C'est simplement une dizaine d'entre vous, allez partager le lien du dernier épisode dans Facebook. Ça serait génial si vous utilisez un iPhone. Vous pouvez le faire directement à partir de votre iPhone dans l'application podcasting. Il y a un petit bouton pour justement partager mon émission dans Facebook. Dites aux gens, à vos amis, « Hey, ce gars-là, il est sympathique. Allez écouter son émission, il parle de bière. C'est drôle. Puis, je vais seulement chercher 3-4 nouvelles personnes comme ça, c'est déjà ça de fait. C'est déjà quelques personnes de plus à qui je partage et qui peuvent eux aussi me donner du feedback. Et petit à petit, ça fait boule de neige et ça me fait beaucoup plaisir. Donc, je vous laisse là-dessus. Vous pouvez m'envoyer des commentaires. Évidemment, il n'y a plus beaucoup de gens qui le font sur le blog, mais vous pouvez m'envoyer un commentaire par Twitter. Vous pouvez me le faire sur Facebook. Sinon, le bon vieux email, c'est la bonne façon de me rejoindre. Québec balado@commercial.gmail.com. Vous m'envoyez un email là. je vous réponds, on est content, on est en business, on a des beaux échanges et ça aussi, c'est mon méga salaire. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion et je vous laisse à quelques secondes du 60 minutes, je vous laisse avec une autre chanson de Arcade Fire, celle-là qui s'appelle Afterlife. Je vous dis à très bientôt pour un autre Québec en balado-diffusion. Mon nom est Sylvain Grandmaison. Ciao!
tous tes mots.